La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle réjouit la presse ukrainienne ce matin. Le réalisateur Oleg Sentsov, emprisonné en Russie depuis 5 ans, aurait été libéré à la faveur d'un échange de prisonniers.
Oui, vous noterez que nous donnons l'information au conditionnel. Mais cette précaution n'est déjà plus d'actualité apparemment dans les journaux kieviens. Sentsov et une trentaine d'autres prisonniers politiques rentrent en Ukraine. C'est ce qu'écrit en grand titre de une le journal en ligne Ukrainska Pravda. Il cite ce journal comme source officielle un message partagé sur Facebook par le procureur général ukrainien Ruslan Ryaboshapka. Et ce que dit ce message, eh bien, c'est que l'échange de prisonniers russes contre prisonniers ukrainiens tant attendu depuis hier a bien eu lieu au milieu de la nuit et que Sentsov, mais aussi par exemple les marins ukrainiens détenus en Russie depuis un accrochage en mer d'Azov avec la flotte russe, sont dans un avion qui les ramène au pays libre. Cette information, on ne la trouve pas encore officiellement confirmée un côté russe, mais le site d'info dissident Medusa et ou encore la radio d'opposition Écho de Moscou ont été les premiers à la prendre cette information à leur compte hein, avec leurs propres sources et sans conditionnel. Il faut dire que ces libérations groupées ont été précédées dans la journée d'hier par des signes avant-coureurs. Le transfert d'Oleg Sentsov et des marins ukrainiens depuis leur prison vers un centre de détention moscovite. Kommersant nous expliquait également hier soir que les détenus devaient faire une demande écrite de grâce à Vladimir Poutine en personne pour qu'il soit libérable. Mais Sentsov, le plus politique, le plus médiatisé aussi, aurait longuement refusé, ne voulant pas donner l'impression qu'en demandant grâce, il reconnaissait sa culpabilité dans cette participation à un groupe terroriste pour laquelle il a été condamné et qu'il, bien sûr, a toujours nié. Hier, également, déjà, le quotidien russe Gazeta anticipait tout de même cet échange de prisonniers, analysé comme un geste essentiel de rapprochement entre l'Ukraine et la Russie, comme les deux pays n'en avaient pas connu depuis le début de cette guerre froide qui les oppose depuis maintenant 5 ans. Difficile également de ne pas y voir avec cet édito de Gazeta un mouvement préparatoire à ce sommet Ukraine-Russie évoqué au dernier G7 et qui doit, courant septembre, relancer le dialogue de paix sous l'égide de la France et de l'Allemagne. Alors qu'il est, tous les médias ukrainiens ont dépêché leurs équipes à l'aéroport de Kiev, il ne manque plus que de voir Sentsov et les autres pour pleinement croire à leur libération.
Et nous partons à présent pour la Colombie où d'anciens combattants des FARC ont annoncé qu'ils reprennent les armes contre l'État dirigé par Iván Duque.
Oui, le président colombien qui est accusé par ses dissidents FARC d'avoir trahi les accords de paix signés il y a 3 ans à La Havane. Juste avant l'été, vous vous en souvenez peut-être, nous évoquions ici même la disparition de l'ancien numéro 2 des FARC, Iván Márquez, négociateur en chef des accords de 2016. Eh bien, Iván Márquez a réapparu hier dans une vidéo qui, comme nous le dit El País, n'en finit pas de secouer la Colombie. Et pour cause, dans cette vidéo qui reprend toute l'imagerie de la guérilla sud-américaine que les accords de La Havane devait totalement renvoyer dans les livres d'histoire, eh bien, dans ce film, on voit Márquez armé, vêtu d'un treillis aux côtés d'autres chefs connus de l'ancienne guérilla et qui annonce donc la reprise de la lutte du peuple contre l'oppression. Ceux-là veulent clairement faire revivre un passé qui semble déjà complètement décalé, écrit Juan Cardena dans El País América. Mais la Colombie craint-elle vraiment un retour des hostilités dans ces montagnes? Eh bien, pas vraiment à lire El Tiempo qui rappelle bien qu'il s'agit là d'une fraction très limitée des anciens FARC, que la majorité des autres, à commencer par le très populaire ancien guérillero Rodrigo Echeverry, alias l'ex-commandant Timoshenko, restent fidèles à leur engagement de désarmer, de rentrer dans le jeu politique et se désolidarisent complètement d'Ivan Márquez et des siens. D'ailleurs, les quotidiens de Bogota font une large place à la communication des autorités colombiennes qui présentent les insurgés comme une bande de narcoterroristes sur le retour, tous ou presque poursuivis par la justice. La juridiction spéciale pour la paix créé à Bogota par les accords de 2016, vient d'ailleurs de lancer l'ordre de les capturer au plus vite. Sauf que, eh bien, on ignore où a été tournée la vidéo d'hier et où se cachent donc les nouveaux FARC. Heraldo nous fait tout de même partager la piste retenue par le président Iván Duque, soufflée d'ailleurs par les renseignements américains. Les guérilleros se trouveraient au Venezuela, protégés par le président Nicolas Maduro.
Et puis on termine, Camille, avec la Côte d'Ivoire. Elle offre des obsèques grandioses pour le roi du coupé décalé.
Le Le coupé décalé, est-ce que je dois le rappeler, hein, c'est ce style musical et la danse qui va avec, qui sont ultra populaires depuis une quinzaine d'années chez la jeunesse africaine. Un genre qui est né à Abidjan et qui a très largement essaimé en Europe aussi, notamment grâce, il faut bien le dire, à des artistes comme DJ Arafat, le plus connu d'entre tous, celui dont on parlait le plus dans les médias, au moins autant d'ailleurs à la rubrique des faits divers qu'à celle des actualités culturelles, comme le dit Jeune Afrique dans le portrait consacré à cet enfant béni tout autant que mauvais garçon de la Côte d'Ivoire. Car DJ Arafat est mort le 12 août dans sa ville d'Abidjan. Il s'est tué dans un accident de moto. Il avait 33 ans et sa mort a profondément marqué le pays à l'image de la popularité du personnage. Pendant les veillées funèbres ces dernières semaines, toute la classe politique ivoirienne est passée rendre hommage aux musiciens qui dépassaient tous les clivages selon un nouveau Jeune Afrique. Aujourd'hui donc et demain, samedi, détail Fraternité Matin, le stade Oufouette Boigny d'Abidjan va accueillir les obsèques de DJ Arafat et elle s'annonce démesurée par la foule qui devrait affluer, plus de 100 000 personnes selon Afrique Panorama, et par le nombre de stars de la musique africaine aussi qui seront présentes.
Oui.
Excusez-moi,
donc
à commencer par Kofi Olomide, et puis démesurer également le coût de ces obsèques quasi nationales. Le président Alassane Ouattara casse sa tirelire pour DJ Arafat. C'est ce qu'écrit le nouvelafrique.com qui donne ce chiffre. 150 millions de francs CFA. Ça paraît quand même un peu plus raisonnable en euros puisque ça fait 230 000 euros. Le fait est, dit le journal en ligne Wakatsera, que DJ Arafat dérange jusque dans sa tombe, en jugé par l'événement national et quasi politique donc qui est devenu sa mort et l'organisation de ses funérailles. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'artiste fera danser aussi les Ivoiriens jusque dans sa tombe et au-delà. Les cérémonies ce soir dans le stade où Fouette-Boigny devrait rapidement laisser la place à un concert géant.
Merci beaucoup Camille Magnard, 7h41 sur France Culture.